Le conseiller régional d'Abidjan est notre invité.
C'est un jeune conseiller régional qui a été élu en décembre dernier au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui me fait le plaisir d'être mon invité. On va parler avec lui de sa vision politique du développement de la région. Bonjour David Géant.
Bonjour François, tout le plaisir est pour moi d'être
oui,
là.
Votre première réaction lorsque vous avez été élu en décembre, quand vous débarquez sur les bancs de l'hémicycle de la région?
Alors, faut se rappeler un petit peu du contexte dans lequel s'est produit cette élection, un contexte difficile, marqué par une nette progression du Front National. Donc la première réaction qui a été la mienne au soir de la victoire, c'est de me dire qu'on n'avait justement pas tout à fait gagné, mais on n'avait surtout pas perdu. Et que le fait d'être dans cette situation nous obligeait encore plus, vis-à-vis des électeurs, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des habitants de ce territoire, à faire le maximum. Donc ça a été une fierté, un grand honneur, mais surtout une prise de conscience des responsabilités qui pèseraient sur nous durant ce mandat.
On va y revenir évidemment avec vous, mais c'est vrai que on a senti le vent du boulet pour tous les démocrates dans notre région, avec le danger du Front National effectivement, et puis le retrait de Christophe Castaner qui a permis l'élection de Christian Estrosi sans aucune disons contrepartie ni en même temps discussion, parce que de toute façon il fallait que les démocrates soient présents et que le Front National ne prennent pas les directions et les rênes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fermons la parenthèse, si vous voulez bien. Votre profil, David, c'est plutôt un jeune chef d'entreprise qui travaille dans l'économie et qui se retrouve bien à la région à favoriser justement cet aspect et ses connaissances économiques pour développer son territoire.
Exactement, j'ai pas du tout un profil de politique classique, je le revendique et j'en suis assez fier d'ailleurs. Moi, j'étais pas du tout prédestiné à la politique. Je me préparais simplement à devenir chef d'entreprise, ce que je suis aujourd'hui.
Je viens d'ailleurs de me rendre compte que j'ai même pas dit de quel parti politique vous étiez, mais on le devine puisque la région est gérée par les Républicains. Évidemment, vous êtes un militant des Républicains, David Géant.
Oui, tout à fait. Mais je suis surtout en priorité un élu des Alpes-de-Haute-Provence. C'est ça qui m'intéresse avant tout.
Donc, vous êtes dans le domaine de l'économie et vous mettez en œuvre vos capacités au niveau de la région.
C'est exact. On a une chance aujourd'hui, c'est d'avoir une clarification des compétences qui nous a été donnée par la loi NOTRe. Donc, le conseil régional est aujourd'hui la collectivité locale qui a la compétence du développement économique. Ça, c'est une première chance pour agir sur ce domaine. La deuxième chance qu'on a, c'est qu'on a un exécutif présidé par le président Estrosi qui a une volonté forte de faire de ce mandat la bataille de l'emploi, de gagner la bataille de l'emploi, parce qu'on sait qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a 12% de chômage, ce qui fait de notre région certes belle, mais touchée profondément et qui est la troisième région où il y a le plus de chômage en France. Bon, à partir de là, mon profil correspond bien, puisque on l'a dit précédemment, je suis entrepreneur, je connais les attentes des entreprises, puisque moi-même quotidiennement je les rencontre, et c'est pour cela qu'on essaye, à travers des outils qu'on a mis en place, notamment le guichet unique et le fonds régional qui va venir soutenir l'économie locale, de se mettre à disposition des entreprises. C'est vraiment l'objectif, pour ensuite créer de l'emploi.
Vous êtes d'ailleurs vice-président de la commission économie à la région.
Exactement, j'ai la chance d'avoir été nommé vice-président de cette commission, qui est donc une commission très importante, qui est présidée par Pierre Grandufet, qui lui non plus n'a pas le profil d'un politique, qui est lui aussi un chef d'entreprise. Et j'ai la chance de travailler en toute confiance avec lui sous la coupe de Christian Estrosi, qui lui aussi nous laisse travailler sur le fond du sujet avec une grande liberté.
Ce guichet unique, c'est un guichet qui est utile pour qui ? Pour les entreprises, pour les communes, pour les particuliers ?
Alors, le guichet unique, il est à destination des entrepreneurs au sens large, que ce soit des petits commerçants, que ce soit des artisans, que ce soit des entreprises de taille intermédiaire sur n'importe quel secteur. La logique de ce guichet unique, c'est d'avoir une porte d'entrée pour ces demandeurs. Jusqu'alors, on avait différents cadres d'intervention qui étaient multiples, qui étaient pas très clair pour les entrepreneurs qui sont pas habitués à déposer des dossiers. Aujourd'hui, ils ont une porte d'entrée, c'est un numéro vert, le 0805 805 145, j'en profite pour le donner parce que
mais bien sûr,
si les entrepreneurs en ont besoin, c'est quand même pour ça qu'il a été mis en place.
0805 805
145.
145.
Exactement. Donc l'entrepreneur qui a un besoin particulier téléphone et cette plateforme prend en charge sa demande avec une promesse de réponse rapide en moins de 48 heures pour l'orienter vers les dispositifs qui existent. Donc le but, c'est vraiment de se mettre à disposition des entreprises.
Et ça n'est pas une usine à gaz.
Absolument pas. On en a fait la démonstration lors du lancement d'ailleurs, hein, où un artisan appelait pour avoir un financement et on l'a orienté en direct devant la presse. Donc on a vu que c'était pas factice du tout. C'est très très efficace, très efficient et ça correspond surtout à cette attente de simplification et de clarification des choses qu'on a un peu de mal à faire en France.
Vous étiez présent aussi hier, on vous a entendu dans un reportage précédemment, lors de la mise en place et le déploiement de la fibre optique dans les Alpes du Sud. Ça veut dire aussi que vous vous intéressez à ces domaines qui sont des domaines d'avenir.
Je m'y intéresse à double titre. D'abord parce que je suis le représentant de ce qu'on qualifie la génération Y, qui est donc digital native, qui est née avec toutes ces technologies numériques et dont on a pris conscience peut-être avant les autres de l'importance. Et parce que le développement numérique sur notre territoire extrêmement ruraux, c'est aujourd'hui une porte d'entrée pour leur développement. Donc j'ai eu la chance, là encore, d'avoir une grande responsabilité en pouvant intégrer le bureau de PACA-THD, qui est donc l'organisme qui se charge de développer les réseaux très haut débit sur le 04 et le 05.
Et on vous a entendu tout à l'heure parler de la mission de ce syndicat mixte qui est où les départements jouent un rôle particulier et où évidemment la région chapeaute tout cela. Donc l'équipement des Alpes du Sud, notamment en très haut débit, c'est quelque chose de fondamental. Et d'autres services, d'autres propositions qui sont sur votre bureau, David Jean?
Alors, sur cette problématique du numérique, je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin aujourd'hui entre élus locaux et qu'on dépasse ce clivage partisan et politique pour se rendre compte que là, c'est l'intérêt général qu'on va sauver. Parce qu'on s'en rend peut-être pas bien compte aujourd'hui, mais c'est une vraie révolution, ce très haut débit sur nos territoires. Parce que amener les infrastructures de très haut débit, c'est une chose, et il faut le faire parce que c'est le préalable à un développement futur, mais il faut surtout qu'on travaille sur les usages. Des usages qui vont être multiples, je pense au développement économique, je pense à la médecine, on parle souvent des déserts médicaux, la technologie va pouvoir nous aider à aller contre ce problème. Je pense à la formation. On sait aussi qu'on a un gros problème de formation et un déficit de formation sur nos territoires. Je pense à la domotique. Vraiment des usages qui sont extrêmement nombreux. Et si on veut vraiment pouvoir se servir concrètement de la valeur ajoutée qu'on est en train d'amener avec ces infrastructures, il faut d'ores et déjà que nous préparions nos territoires à accueillir cette technologie et à savoir quoi en faire. On peut pas se contenter aujourd'hui de voir la fibre comme un accélérateur pour aller sur Google, pour aller regarder des séries sur le net ou pour préparer ou réserver ses vacances. Il faut vraiment qu'on en fasse un usage concret, créateur de valeur, parce que c'est le moyen pour nos territoires de persister aussi.
Et c'est dans une radio qui est reliée à Internet, vous le savez, avec des sites Internet un petit peu partout, que vous dites cela. Donc on est évidemment très attentif à cette évolution des choses, évolution technologique j'entends, et on attend nous aussi l'arrivée de la fibre avec grand intérêt.
Alors, je parlais bien sûr de projets en matière de développement numérique. Il y en a un autre qui me tient à cœur sur les prochains mois, outre le développement économique qu'on va continuer, puisque vous le savez, la région a la compétence du développement du schéma régional de développement économique. Donc, nous y travaillons de manière collaborative avec les intercommunalités, avec les communes et avec les acteurs du territoire. C'est une volonté forte du président Christian Estrosi d'avoir une concertation pour avoir un schéma qui soit efficace. Il y a autre chose qui me tient à cœur, c'est l'accompagnement des communes. On sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue financier pour les communes. Il y a des baisses de dotation de l'État, il y a des transferts de compétences, il y a des difficultés. Je crois que la région doit venir à la rescousse, et c'est un mot fort que j'emploie, mais c'est une réalité de ces communes, pour les aider dans des projets très concrets, des projets structurants qui vont permettre de pouvoir maintenir de la population dans ces communes, parce que c'est un enjeu pour nous. Et à cette fin, nous avons créé le Fonds Régional d'Aménagement du Territoire, le FRAT, qui permet aux communes, là encore, d'avoir une porte d'entrée unique pour les accompagnements et un montant d'intervention qui va jusqu'à 200 000 euros par projet, par commune et par an. Donc on est vraiment sur des montants conséquents qui vont permettre d'accompagner les communes du territoire et un deuxième dossier par an qui va être possible en tout cas que les petites communes de moins de 1250 habitants vont pouvoir solliciter.
Oui, parce que
là, il y a une volonté d'équité.
Quand vous dites 200 000 euros, c'est vrai que pour une commune de taille moyenne de 20, 30 000 ou 50 000 habitants, c'est pas grand chose, mais pour une commune ou un village de 200 ou 500 habitants, c'est quasiment le financement de la structure elle-même, le budget annuel.
C'est ce qui fait la différence entre un projet qui peut exister et un projet qui n'existera jamais. Parfois
donc,
dans ces communes.
Donc la région est à même de pouvoir soutenir des projets en fonction des compétences qui sont attribuées par la loi ou de manière assez souple?
Alors là, c'est un sens vraiment très large, c'est-à-dire que peu importe le projet qui peut être porté par la commune, l'idée c'est d'aider directement la commune. Donc ça dépasse la compétence unique de la région. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que nous avons eu la chance dans les Alpes-de-Provence d'avoir Eliane Bareil, vice-présidente à la ruralité, qui a travaillé sur le développement de ce fonds. Donc aujourd'hui, ce fonds prend en compte les particularités que nous avons dans nos petites communes avec la volonté de les aider, et ça, c'est une chance.
Et hier, à Villeneuve, le maire de Villeneuve, Serge Faudrin, vous a sollicité, d'ailleurs, pour l'équipement de son école, lorsque la fibre sera arrivée. Donc peut-être que là, il y a une petite possibilité pour lui d'avoir quelques financements dans un village qui se développe et qui se développe bien sur les Alpes de Haute-Provence. Vos relations, David Géant, avec j'allais dire, le gotha politique dans le département, on sait que ça n'est pas l'amour fou avec Christophe Castaner, on s'en doutait, le député PS de Fort-Calquier, mais il n'y a pas que les élus, les autres élus, votre famille politique, tout ça, comment ça se passe?
Écoutez, moi, je le disais quelque part tout à l'heure, je ne me vois pas comme un homme politique. Moi, je suis un citoyen des Alpes de Haute-Provence, un jeune entrepreneur qui a envie de faire avancer les choses. Donc bien sûr, j'ai une sensibilité politique, mais les jeux de parti, les jeux internes m'intéressent que très peu. Au niveau des relations que je peux avoir avec les autres acteurs du département, bah bien sûr, on travaille main dans la main avec Eliane, pareil, avec Roselyne Gigianetti aussi, qui est conseillère régionale et qui est élue à Manosque, avec beaucoup de maires, beaucoup de présidents d'intercommunalités qui nous sollicitent aujourd'hui pour les mêmes raisons que celles que j'avançais il y a quelques secondes. En ce qui concerne Christophe Castaner, il n'y a pas de problématique particulière, ni avec Jean-Yves Roux, ni avec le président du département. Je crois qu'on a tous conscience qu'il faut travailler en bonne entente. Il y a une période qui concerne les élections, où là, c'est la politique qui prend le dessus. Et puis, il y a ensuite l'action concrète. Et là, c'est l'intérêt général. Je vais vous dire, moi, j'ai même refusé d'être candidat aux élections législatives, malgré de très nombreuses sollicitations de part et d'autre, notamment du côté de la région, parce que je voulais prouver avant de prétendre. C'est-à-dire qu'on m'a donné la chance, les citoyens m'ont donné la chance d'être élu conseiller régional, avec des grandes responsabilités qui m'ont été confiées. Je veux démontrer sur le terrain ma compétence et mon action avant de prétendre à autre chose.
Donc réussir la région.
C'est l'objectif central. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un exécutif avec le président Estrosi, avec le président délégué Renaud Muselier aussi, qui est député européen. On va sûrement en parler un petit peu de l'Europe, parce qu'il y a des, là aussi, il y a
et des sujets. Et surtout des fonds européens.
Exactement. On a la chance d'avoir les armes aujourd'hui, les cartes en main, en tout cas, pour pouvoir agir de manière concrète. Donc il faut, c'est à nous de le faire.
Alors les fonds européens, c'est pas une nouveauté à la région quand même, et c'est une. Par contre, maintenant ils sont gérés par la région, c'est une nouveauté, et c'est une opportunité extraordinaire, notamment pour les départements ruraux et j'allais dire aussi pour les communes de stations de montagne.
Alors voilà, il y a deux choses. Le président Estrosi et Renaud Muselier justement sont déjà allés chercher des fonds.
Et qui est député européen en même temps.
Qui est député européen, donc qui fait le parallèle. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de l'accompagner à Bruxelles, en plein Brexit, qui a été une expérience extraordinaire, d'abord pour l'histoire de l'Europe, et ensuite parce qu'on a mieux compris la mobilisation et le fonctionnement de l'institution européenne et des fonds qu'on pouvait récupérer dans la région et dans le département. Ce qui change en effet, c'est la gestion des fonds. Le montant, de toute manière, il est fixé par des critères qui sont parfaitement objectifs, c'est le nombre d'habitants. Donc là, nous, on a environ 1 milliard d'euros à mobiliser entre 2014 et 2020. Ce qui va changer un petit peu, c'est que cet argent, il n'est pas donné par l'Europe à la région. Il faut que nous montions des projets pour aller récupérer cet argent. La majorité précédente avait tendance à ne pas forcément mobiliser comme il le fallait ces fonds et à les utiliser en tout cas de manière optimum. On va modifier cette manière de fonctionner et on va faire en sorte d'inciter et d'accompagner les acteurs de territoire à mobiliser ces fonds européens. Quand on sait qu'aujourd'hui on a une baisse des dotations, je le disais pour les communes, c'est le cas pour les départements, c'est le cas pour les régions, c'est le cas pour l'État aussi qui modifie ses budgets, il faut qu'on aille chercher cette manne financière de l'Europe. Et ça tord le cou à une idée reçue de dire que l'Europe ne sert à rien et est trop éloignée du citoyen. À travers ces fonds, on démontre bien l'inverse.
Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que si on n'utilise pas les fonds européens, ils sont perdus.
Ça, c'est une particularité. Et encore une fois, ça m'a fait étrange de comprendre cette particularité, puisque plus vous dépensez, plus on vous donne, finalement. C'est un petit peu ça l'histoire. À savoir que si, à mi-mandat d'exécution de la libération de ce fonds, c'est-à-dire 2017 dans le cas présent, on n'a pas utilisé 40% des fonds, les 60% supplémentaires sont réorientés vers les régions qui consomment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'aller chercher ces 40%, ou sinon, on se priverait de quasiment 600 millions d'euros.
La barre n'est pas trop haute ?
La barre n'est pas trop haute. Il faut savoir qu'on va faire en sorte de mobiliser du personnel sur place. Aujourd'hui, il y a une personne uniquement de la région qui est salariée, qui fait le relais entre l'Europe et la région, quand on sait que la Bavière, par exemple, a 80 personnes sur place. 80 personnes qui, au quotidien, se chargent de sortir les appels à projets, de les orienter vers les acteurs du territoire et de les aider à boucler leurs dossiers. On va essayer de, sur ce modèle-là, alors peut-être pas avec autant de monde parce qu'on a peut-être moins de moyens, mais de réussir à mobiliser ces fonds.
Parlons, si vous voulez bien, David Géant, de notre secteur d'activité. Vous savez que nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire a souffert ces derniers mois de la mise en place de la nouvelle équipe de Christian Estrosi. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais vous les connaissez. Et il y a des inquiétudes qui se créent et qui s'accumulent aussi aux baisses de dotations de l'État, aux baisses des dotations des subventions des collectivités locales, territoriales. Vous pensez pouvoir jouer un rôle dans ce cadre-là ?
Bien sûr. Vous pensiez en tout cas que j'étais au courant. C'était le cas parce que je suis allé rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Premier point que je voudrais mettre en avant, moi, c'est ce terme d'économie sociale et solidaire qui me gêne dans le sens où ça sous-entendrait qu'il y a une économie qui n'est pas sociale et solidaire. Ça peut être le cas lorsqu'on considère la très haute finance ou les traders, où là, on peut en effet penser que la création de valeur est un peu déconnectée de l'aspect du territoire.
J'en ai jamais invité ici même.
J'imagine bien. Mais pour moi, un boulanger ou un boucher ou un maçon ou un plombier qui crée de l'emploi et qui tous les jours fait tourner son entreprise, il n'y a pas plus social et solidaire que ça. Donc moi, j'ai un raisonnement économique au sens large. Je considère une chose, c'est qu'il y a pas de, on n'est pas contre l'économie sociale et solidaire par principe. C'est qu'il faut qu'il y ait une analyse qui soit faite en fonction de la création de valeur, qu'elle soit économique, sociale, sociétale ou environnementale. Donc le raisonnement du Conseil régional aujourd'hui et de l'exécutif, c'est de se poser la question de l'utilité en matière de création de valeur d'une entité qui est financée par l'argent public. Parce que, encore une fois, on est comptable envers les citoyens de leur argent. C'est leur argent qu'on dépense aujourd'hui. C'est les impôts, les vôtres, les miens, qu'on dépense aujourd'hui. Donc la logique qu'on doit avoir, c'est pas une logique... une logique, encore une fois, qui pourrait s'apparenter à une logique politique ou partisane, c'est de se dire, voilà, tel organisme, on lui donne tant, quelle est la retombée concrète pour le territoire ? Donc l'économie sociale et solidaire, au même titre que le reste, sera accompagnée quand il sera évalué les retombées qui sont pour le territoire. Et ça me semble une bonne manière de fonctionner.
On sait cependant que les entreprises privées qui sont dans la rentabilité, j'allais dire même dans la flexibilité, n'iront pas sur certains domaines, que ce soit le culture ou le social. Et là, le social, les associations, par exemple, les coopératives, les mutuelles ont un rôle à jouer. Et c'est pour ça que je me fais un petit peu leur porte-parole à ce moment-là, David Géant, pour dire que effectivement, c'est une activité qui concerne l'intérêt général aussi et dont le territoire a besoin.
Bien sûr. Et je partage parfaitement ce point de vue et j'irai même plus loin en disant que là où on pense vraiment la valeur ajoutée de l'économie sociale et solidaire, c'est dans ces secteurs abandonnés du privé, mais qui ne doivent pas tomber non plus dans les mains du public. Donc ce type de structure à mi-chemin entre les deux permet d'apporter une réelle valeur ajoutée et ça, il n'a jamais été dans mon intention de le nier et j'en suis très conscient.
On est rassuré.
Vous pouvez.
Merci beaucoup, David Géant, d'avoir été mon invité. On vous sent heureux d'être à la région.
Très heureux et maintenant pressé de voir les retombées de l'action de terrain que je mène tous les jours avec l'ambition de servir encore une fois uniquement.
En tout cas, j'ajoute aussi que je vous vois souvent sur le terrain et c'est un plaisir que de voir des élus sur le terrain et pas uniquement d'ailleurs lors des inaugurations aux chrysanthèmes mais lors de dossiers particuliers et de pouvoir discuter avec vous et de discuter avec certains de vos collègues également de tous bords politiques, enfin presque tous bords politiques.
Voilà, presque.
Pour être sérieux, vous n'avez pas cité une conseillère régionale, je ne la citerai pas non plus. Merci beaucoup David Géant, bonne journée, à bientôt.
Merci François et merci à toute l'équipe de Fréquence Mistral.